à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 temps universel du lundi 13 août 2018. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Le dépouillement se poursuit au Mali au lendemain d'un second tour de la présidentielle sans engouement.
La conséquence logique d'une chute de popularité de l'ensemble des acteurs politiques, les Maliens avaient d'importantes attentes par rapport à la démocratie au sortir de la chute de la dictature.
Au Zimbabwe, le président Mnangagwa appelle à tourner la page des élections dans un discours prononcé ce lundi. Au Cameroun, le gouvernement promet une enquête après une nouvelle vidéo montrant des exactions de soldats sur des civils. Et le guide suprême iranien a déclaré qu'il n'y aurait ni guerre ni négociation avec les États-Unis. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous. Les Maliens attendent les résultats du second tour de la présidentielle d'hier entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et l'opposant Soumaïla Cissé. Le scrutin n'a pas suscité l'engouement des électeurs. Nous avons en direct depuis Bamako notre correspondant Kassim Traoré. Kassim, bonsoir.
Bonsoir Abdraman.
Alors, quels sont les derniers développements?
Alors, Abdraman, depuis la fermeture des bureaux de vote, on peut dire que le camp Soumaïla Cissé a opté pour la contestation, car hier, depuis que les urnes ont été fermées, dans le camp de Soumaïla Cissé, il y a eu d'abord des éclats de joie des manifestants au niveau de son QG. Idem pour le camp Ibeka, où ses partisans aussi se sont mobilisés. Tout à l'heure, il y a quelques minutes seulement, Soumaïla Cissé, à partir du balcon de sa résidence dans le quartier de Badlabougou, a fait quelques déclarations. Pour lui, il est en avance sur le président de la République sur la base des résultats qu'il a obtenus. Soumaïla Cissé appelle les Maliens à se lever. Selon les données qu'il dispose, qu'il a à sa possession, il serait largement en tête devant les candidats Ibeka, a déclaré Soumaïla Cissé. Il condamne aussi le sabotage de leur base de données par les services techniques de l'État. Fin de citation. En tout cas, ici, nous sommes toujours dans l'attente des premiers résultats provisoires. La centralisation se poursuit au niveau de l'administration territoriale où les mandataires des deux candidats sont là-bas avec les techniciens de l'administration territoriale. Selon nos informations, les choses risquent d'aller très vite. Contrairement au premier tour, les travaux ne vont pas dépasser 72 heures. Ibrahim Boubacar Keïta opte pour le silence. Il préfère attendre les résultats provisoires pour se proclamer, pour faire sa première déclaration. Nous l'apprenons auprès de son directeur de la communication, Mamadou Camara.
Voilà, Kassim Traoré en direct de Bamako. Kassim, merci beaucoup. Et on revient sur l'assassinat hier d'un président de bureau de vote dans le cercle de Niafunké, dans la région de Tombouctou. En direct sur place, nous avons Sekou Abdoul Kader Meïga. Kader, bonsoir.
Kader, bonsoir, vous êtes... Abdraman.
Oui, alors quelles sont les dernières informations dont vous disposez sur cet incident hier?
Effectivement, suite au décès d'Ibrahim Alassane Cissé, président du bureau de vote 2 du village de Arkodia, il est hier soir que l'armée est arrivée sur le lieu pour récupérer le corps. Cela malgré également que les affaires soient partis, la population avait toujours peur donc d'arriver sur le lieu. Une situation dramatique a paniqué. Aussitôt, hier donc, plusieurs bureaux de vote qui étaient à côté, notamment 8 de la même commune, ont fermé les portes immédiatement. Et selon nos sources, donc, des enquêtes seraient en cours afin de pouvoir déterminer donc qui se cache derrière cet assassinat. Il faut aussi noter que cet état de fait a joué sur la collecte des résultats puisque plusieurs présidents du bureau de vote du chef de Niafunké ont préféré dormir donc dans la brousse et ne prendre la route vers Niafunké au niveau de la préfecture où seront centralisés l'ensemble des résultats. Alors donc, cela a mis donc cette commission en retard. Certains agents électeurs ont même perdu leur moto dans la fuite du côté de Nédougou et d'autres seraient arrivés très fatigué après de longues heures de marche. Notre électorat en mai. À l'heure où je vous parle, tous les agents électeurs du chef de l'Afrique seraient arrivés à leur domicile. Ici, à Niafunké, après cette acte d'assassinat, la ville est calme, mais aussi et surtout attristée.
Voilà. Merci beaucoup, Sekou Abdelkader Meïga, depuis la région de Tombouctou. Le porte-parole du gouvernement camerounais Issa Tiroma Bakary a promis l'ouverture d'une enquête sur une nouvelle vidéo montrant des exactions imputées à l'armée dans la région de l'extrême nord. La vidéo, qui aurait été tournée avant mai 2016, selon Amnesty International, a été diffusée début août sur les réseaux sociaux. Elle montre des hommes armés tirant sur une dizaine de personnes non armées agenouées face à un mur près de maisons en flammes. L'extrême nord du Cameroun est en proie à des attaques perpétrées par de présumés membres de Boko Haram. Au Zimbabwe, cet appel a tourné la page. Le président Emmerson Mnangagwa demande à ses concitoyens de dépasser la période électorale et embrasser l'avenir. Un appel à l'apaisement alors que l'opposition conteste son élection. Bagassi Koura.
Il est temps de mettre la période électorale derrière nous et d'embrasser l'avenir, a affirmé Emmerson Mnangagwa lors d'un discours à l'occasion de la journée des héros de l'indépendance. Il a aussi répété que le scrutin avait été libre, équitable, transparent et crédible, accusant l'opposition des violences. Depuis vendredi, la Cour constitutionnelle est saisie par l'opposition pour des cas de fraude massive lors de la présidentielle du 30 juillet. Du coup, l'investiture de Mnangagwa, initialement prévue dimanche, a été repoussée. D'après la commission électorale, le premier tour a été remporté par Mnangagwa avec 50,8% devant le leader du MDC, Nelson Chamisa, crédité à 44,3%. Maintenant saisi du recours du MDC, la Haute Cour dispose de 14 jours pour confirmer ou infirmer ses résultats.
En Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle a jugé que la nomination par l'ancien président Jacob Zuma de Shaun Abraham comme procureur général du pays n'était pas valable et a demandé son remplacement dans les 90 jours. Selon la Cour, M. Abrahams a accédé à son poste après un processus constitutionnellement non valable, comprenant une grosse compensation financière pour son prédécesseur, offerte par le président Zuma. Les juges estiment que cette nomination découle d'un abus de pouvoir commis par l'ancien président. Human Rights Watch exhorte l'Égypte à rendre justice aux victimes d'un assaut meurtrier contre une manifestation qui a fait des centaines de morts en 2013. Les responsables de cette attaque n'ont toujours pas été poursuivis. Et puis l'économiste franco-égyptien Samir Amin, figure de proue de l'altermondialisme qui vivait à Dakar, est décédé hier à Paris à l'âge de 87 ans. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le président sénégalais Macky Sall dans un communiqué.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la police fédérale a licencié un agent qui avait échangé des messages anti-Trump avec sa petite amie qui travaille aussi pour le FBI pendant la campagne de 2016. Peter Strzok et Lisa Page ont tous les deux travaillé sur l'enquête concernant les emails de Hillary Clinton, candidate malheureuse de la présidentielle de 2016. Le président Trump accuse le FBI de partialité, citant notamment le cas de Peter Strzok. En Iran, le guide suprême Ali Khamenei a affirmé qu'il n'y aurait ni guerre ni négociation avec les États-Unis, même si son pays traverse une situation économique difficile. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Laissez-moi dire au peuple qu'il n'y aura pas de guerre ni de négociation avec les États-Unis, a déclaré le guide suprême Ali Khamenei. Cependant, Amir Hatami, ministre de la Défense, a dévoilé un missile de nouvelle génération et promis de renforcer les capacités balistiques de son pays. La radio-télévision d'État a indiqué que la nouvelle version du missile Fateh Mubin est capable d'atteindre des cibles au sol et en mer. Le guide suprême iranien estime que les problèmes de son pays sont le résultat d'une mauvaise gestion plutôt que du rétablissement des sanctions américaines. Il a autorisé la création de tribunaux révolutionnaires pour juger les suspects de crimes économiques. La justice a annoncé dimanche l'arrestation de 67 personnes soupçonnées de corruption et interdit à une centaine de fonctionnaires de quitter le territoire. L'économie iranienne souffre d'un taux de chômage élevé, d'une forte inflation et la monnaie iranienne est en chute libre. L'ayatollah Khamenei a critiqué ceux qui ont appelé au départ du président Hassan Rouhani, affirmant qu'ils font le jeu des ennemis.
Le ministre de la Défense israélien Avigdor Lieberman a déclaré que le prochain affrontement avec le mouvement palestinien Hamas n'était qu'une question de temps, alors que les deux camps observent une trêve après un sévère accès de tension. Plus de 180 roquettes et obus de mortier ont été tirés de Gaza vers Israël, faisant plusieurs blessés. L'aviation israélienne a riposté en frappant plus de 150 sites militaires du Hamas, selon l'armée. Trois Palestiniens, dont une femme enceinte de 23 ans et sa fille de 18 mois, ont été tués dans ces raids. Plus de 130 réfugiés syriens établis au Liban sont rentrés aujourd'hui en Syrie dans le cadre d'un nouveau départ coordonné par les autorités de Beyrouth et de Damas. Au Liban, les appels se font de plus en plus pressants en faveur d'un retour des réfugiés dans leur pays depuis que le régime de Damas a enchaîné les victoires face aux rebelles et aux djihadistes. Et puis le combat pour le contrôle de la ville de Ghazni dans l'Est ont fait au moins 100 morts et en 4 jours au sein des forces de sécurité afghanes, près du double chez les talibans, ce qu'a indiqué le ministère afghan de la Défense ce lundi. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique à présent. On en parle dans la Minute Éco présentée ce soir par Idriss Fall.
En Côte d'Ivoire, premier producteur africain de caoutchouc et 7e au rang mondial, les éveaculteurs ont vu leurs revenus divisés par 5 en 10 ans. Face à la surproduction mondiale, les producteurs de caoutchouc naturel dénoncent aussi les taxes prélevées par l'État ivoirien. Samir Amine, économiste franco-égyptien, est décédé dimanche à Paris à l'âge de 87 ans. Lui rendant hommage, le président sénégalais Macky Sall a salué un homme qui a consacré toute sa vie au combat pour la dignité de l'Afrique. Il est, entre autres, l'auteur de l'ouvrage intitulé « Le développement inégal, essai sur les formations sociales du capitalisme périphérique ». L'action du groupe pharmaceutique Bayer, nouveau propriétaire de Monsanto, a perdu plus de 10% à la bourse de Francfort. Un tribunal de San Francisco a condamné Monsanto à payer 289 millions de dollars d'amende pour ne pas avoir informé sur les substances cancérigènes de son herbicide Roundup avec le glyphosate et les pesticides très prisés en Afrique. Au moins 4000 affaires similaires sont pendantes devant des tribunaux américains.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Coupe du monde féminine des moins de 20 ans, l'Afrique aura un représentant en quart de finale.
Eh oui, un match nul arraché dans les ultimes secondes face à la Chine. Le Nigeria, auteur donc de ce match nul, un but partout qui suffit à qualifier les Nigérianes pour les quarts de finale. L'Afrique aura donc un représentant en quart de finale. Hier, le Ghana avait sauvé l'honneur en battant la Nouvelle-Zélande 1-0. Une victoire qui n'empêche pas les Ghanéennes d'être éliminées. Et puis, les autres résultats de ce lundi. Match nul, 2-2 entre les Espagnols et les Américaines. Le Japon gifle le Paraguay 6-0. L'Allemagne bat Haïti.
Le FC Barcelone a remporté son premier trophée hier au Maroc.
À Tanger, Barcelone a remporté la Supercoupe d'Espagne en battant Séville 2-1. Les buteurs dimanche soir, Gérard Piqué et le champion du monde français Ousmane Dembélé. Le Barça, champion d'Espagne et vainqueur de la Copa del Rey, réalise donc un triplé national.
Le Ghana, dernier qualifié pour la phase finale de la CAN des moins de 20 ans.
Oui, le Ghana est devenu le 8e et dernier pays qualifié pour la phase finale de cette CAN 2019 qui se jouera au Niger. Les Black Satellites sont venus chercher le nul, 1-1 à Cotonou, après leur victoire 3-1 à domicile contre les écureuils du Bénin à l'aller.
On parle de la CAN des moins de 17 ans et le Cameroun devient le 2e pays qualifié.
Après la qualification de l'Angola dans la zone COSAFA, on connaît un 2e qualifié pour cette phase finale de la CAN des moins de 17 ans qui aura lieu en Tanzanie en 2019. Il s'agit du Cameroun qui a battu hier le Congo sur le score de 3-1.
Cyclisme avec l'épilogue du Tour du Rwanda, Samuel Mugisha remporte cette édition de 2018.
Le coureur rwandais devant son compatriote Jean-Claude Uwizeye et l'éthiopien Mulwaile Michael. C'est pour la 5e année consécutive que le Rwanda s'adjuge le maillot jaune de ce Tour du Rwanda. La dernière étape hier dans les rues de Kigali a été remportée par l'Algérien Azedine Lagab.
Enfin tennis, Nadal toujours au sommet du classement mondial.
Oui, Rafael Nadal qui a remporté son 80e titre à Toronto. Il compte désormais plus de 3500 points d'avance sur son dauphin, le Suisse Roger Federer. Federer absent au Canada. Nadal a donc déjà validé son billet pour les Masters de Londres en fin d'année.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie, et on passe au dossier du jour. Au Mali, les résultats du second tour de la présidentielle sont attendus dans les prochains jours pour départager le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et l'opposant Soumaïla Cissé. Cependant, hier, il n'y avait pas bousculade devant les quelques 23 000 bureaux de vote. Comment expliquer ce faible taux de participation des Maliens? Idriss Fall a joint le professeur Issa Ndiaye à Bamako.
Ce n'est pas une surprise. D'abord, c'est la conséquence logique d'une chute de popularité de l'ensemble des acteurs politiques. Les Maliens avaient d'importantes attentes par rapport à la démocratie au sortir de la chute de la dictature. Mais au fil des années, l'espoir s'est amenuisé et la confiance aussi. La gestion des dernières années d'Ibeka aussi a beaucoup contribué à discréditer la classe politique. Et enfin, ces deux acteurs-là qui sont au second tour sont présents sur la scène politique depuis plus de 25 ans. Les Maliens les connaissent suffisamment et n'attendent pas grand-chose de ces deux hommes-là. Les estimations parlent de 22%, mais ce n'est pas les chiffres officiels. Mais on est sûr que de toutes les façons, on n'atteindra pas la barre des 30%. Ça veut dire simplement que le système démocratique malien tel qu'il a été pratiqué depuis plus de deux décennies maintenant n'a pas donné les fruits escomptés. Faut-il revoir le modèle? Faut-il changer les hommes? Ou faut-il faire les deux en même temps? La question reste posée. On assiste à une sorte de fin de cycle. La démocratie qui est montée des années 91 est en train de vraiment s'effondrer. Il y a un renouvellement qui se dessine, qu'il va falloir traduire en acte politique. Et ce n'est pas évident.
Ceux qu'on avait appelés les faiseurs de roi n'ont pas donné non plus consigne de vote. Est-ce que ça a eu de l'effet sur la non-mobilisation?
Très peu, parce que d'une manière générale, les Maliens sont déçus de leurs hommes politiques. Ceux aussi qui n'ont pas donné de consigne de vote, parce que ici souvent, on vote pour quelqu'un. Quand on n'a pas son candidat, on est pas motivé à le faire. Mais déjà au premier tour, la mobilisation n'était pas énorme. C'est surtout en région que les gens ont voté. Mais je pense que d'une manière générale, on s'attendait à ce que les gens ne se mobilisent pas au second tour.
Décalage entre les hommes politiques pendant que le pays traverse une crise sécuritaire, une crise économique. Quel avenir pour le Mali alors?
Très très sombre, hein, parce que le pouvoir qui en sortira va sortir moins légitimé que la dernière fois. Je rappelle que Ibeka avait eu près de 77% des gens qui ont voté pour lui. Et parce que les gens espéraient. Et même s'il est élu, il va être très faible, peu légitime pour pouvoir prendre des décisions. Dans tous les cas, les Maliens sont tellement désespérés qu'ils ne croient plus à ce système-là. C'est pourquoi je dis que l'avenir est très sombre et la seule façon de rebondir, c'est de réunir les populations, de leur demander vraiment de dire quel avenir veut-il pour le Mali. Mais on ne peut plus faire des réformes d'en haut et les parachuter sur les populations. Et je pense que si on donnait la parole au peuple, ils vont changer pas mal de choses, y compris congédier pas mal d'hommes politiques de la scène de l'histoire politique malienne.
C'était le professeur Issa Ndiaye, joint à Bamako.
Jacques Aristide avec vous. Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur la renonciation du président congolais Joseph Kabila à un troisième mandat, et ce après un long suspense. Il aurait dû quitter le pouvoir il y a 2 ans, soit à la fin de son second et dernier mandat tel qu'exigé par la Constitution. Que signifie cette décision pour la RDC et le reste du continent? Dans quelles conditions se déroulera l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain après maint report? C'est une édition que nous allons vous proposer en collaboration avec notre chaîne partenaire WAF TV à Dakar. Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au Togo, le ministère de la Justice a annoncé la semaine dernière l'ouverture d'une enquête sur la profanation de mosquées à Lomé, alors que les catholiques ont exprimé leur solidarité aux fidèles musulmans et exhorté les Togolais à préserver le vivre ensemble pacifique entre les communautés religieuses de leur pays. Reportage à Lomé de la correspondante de VOA Afrique, Kay Lawson.
La communauté musulmane du Togo est en colère. Des mosquées situées à Goué, dans la banlieue nord de Lomé, ont été la cible de profanation. Pour l'Union musulmane du Togo, il s'agit des actes de sabotage et de provocation qui s'apparentent à des crimes de lèse-majesté à l'endroit de la communauté musulmane. Abdou Latif Mako est l'imam de la mosquée d'Agoué de Makboué. Il revient sur ces délits.
Dans la nuit du 27 au 28 juin, les fidèles de la mosquée 6 à Agoué Assiéyé ont trouvé les copies du Saint-Coran de leur mosquée déchirées, chiffonnées, puis accrochées aux grilles de la clôture. Les auteurs de ces profanations des lieux sacrés ont poursuivi leurs actes dans deux mosquées dans le quartier Kanfir. Ceci dans la nuit du 31 juin. Et du 3 août. Les mosquées ont été incendiées, les exemplaires du Saint-Coran détruits et les biens matériels saccagés.
Ces actes risquent de menacer le vivre ensemble religieux au Togo, estime-t-on. Le professeur Magloire Kwakubi de la Commission épiscopale Justice et Paix insiste sur la forte cohésion interreligieuse qui prévaut dans le pays.
C'est inquiétant. On peut craindre le pire parce que vous vous rappelez que lorsqu'il y a eu le cas Charlie Hebdo, pas moins d'une quarantaine d'églises ont été brûlées au Niger. Bon, je ne crois pas que nous sommes dans ce cas d'espèce-là parce que au Togo, personne n'est inquiété pour sa confession. Tout le monde coexiste pacifiquement, donc il n'y a pas de bisbille entre les religions. Depuis des lustres, il n'y a jamais eu de problème.
Dans un élan de compassion et de solidarité, la Conférence des évêques du Togo a appelé à préserver le vivre ensemble pacifique entre les communautés religieuses dans le pays. Devant de tels actes qualifiés d'ignobles, l'Union musulmane du Togo invite la communauté à redoubler de vigilance. Imam Ali Sosa de l'Union musulmane du Togo.
L'Union musulmane, le conseil qu'il a donné à tout musulman du Togo, c'est d'être vigilant et patient. Et ils nous ont donné des directives à prendre. Ceux qui n'ont pas de gardiens, ils n'ont qu'à chercher les gardiens pour garder leur mosquée. C'est la maison de Dieu qu'on a saccagée. C'est très grave, très grave. Celui qui a touché la maison de Dieu et a touché le Coran, avoir l'audace jusqu'à les déchirer, il aura la punition de Dieu.
Suite à ces incidents, le ministère togolais de la Justice a ouvert une enquête pour mettre la main sur les auteurs et commanditaires de tels actes de profanation. Le ministre de la Justice, Pius Agbetome, a fait savoir qu'ils seront prêts à agir sans relâche et avec fermeté contre ces profanateurs. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
N'Djamena, la capitale tchadienne, est selon notre correspondant sale, surtout pendant la saison des pluies. Dans les 10 communes d'arrondissement et la mairie centrale, le constat est le même. Une situation déplorée par le président Idriss Déby Itno le 23 juillet dernier au cours d'une rencontre avec les autorités communales. Il leur a donné un délai de 72 heures pour assainir la ville. Trois semaines après cet ultimatum, le correspondant de VOA Afrique à N'Djamena, André Kodmajingar, fait le point.
La situation dans les communes des 10 arrondissements est en tout cas identique, sinon pire. Je ne comprends pas pourquoi je vous donne 72 heures pour réparer le mal.
Trois semaines après cette sévère mise en garde du chef de l'État, Idriss Déby Itno, chef des communes d'arrondissement de la ville de N'Djamena, rien n'est fait sur le terrain. Des ordures creusées des caniveaux et des tas d'immondices ne sont pas dégagées et les rues ne sont pas aménagées. Une situation qui rend la ville désagréable alors que les hautes autorités du pays rêvent de faire de la capitale tchadienne la vitrine de l'Afrique centrale. Ironie du sort, ces élus locaux qui jouent à une prolongation comme les députés à l'Assemblée nationale, puisque leur mandat a pris fin depuis avril 2016, ne se rendent pas compte que la ville est sale. Il a fallu cette interpellation pour qu'ils organisent une tournée afin de s'enquérir des réalités du terrain. Jimmy Ibet est le maire de la ville de N'Djamena.
Avec les 10 maires des communes d'arrondissement, nous sommes tous aujourd'hui sur le terrain pour constater nous aussi et donner des instructions aussi fermes. Nous allons fermer les dalles, enlever les terres curées parce que la ville est sale.
Après la mise en scène de Madame le maire de la ville de N'Djamena et les 10 chefs des communes d'arrondissement, le constat est le même. Quelques citoyens interrogés par VOA Afrique affirment que ces élus locaux sont défaillants.
Je pense que l'ordre donné par le président n'a pas été du tout respecté. Il y a des bassins de rétention du 7e arrondissement qui est débordant d'eau. À chaque fois que l'eau tombe, l'eau remonte jusque dans les concessions.
Quand il pleut, il n'y a même pas de l'issue pour que l'eau même passe.
Chaque année, je ne comprends même pas pourquoi cette rue ne soit pas améliorée par le 10e arrondissement.
Nous tous, les jeunes, les 10e, nous voulons que les maires prennent leurs responsabilités. Il faut qu'on amène des sables pour bien ranger la route.
Je pense que tous les maires ne sont pas stables. À chaque fois, on saute celui-là, on remet celui-là. Nous interpellons vraiment le président pour qu'il voit ce côté-là.
Pour le maire de la commune du 7e arrondissement, l'un des arrondissements le plus vaste de la capitale, le travail est en train d'être fait sur le terrain avec les moyens de bord.
Ce rappel à l'ordre n'a pas été accompagné par des moyens. Ben, nous nous sommes battus de tous côtés pour faire le travail. C'est un combat qui ne peut pas se faire en un seul jour. Je demanderai à mes concitoyens de nous aider dans ce travail. Parce qu'il y a des gens qui jettent les ordures dans les caniveaux et c'est ceux-là qui nous créent tellement de problèmes.
Selon la loi numéro 9 du 15 juillet 2005 portant statut particulier de la ville de N'Djamena, toutes les communes d'arrondissement, y compris la mairie centrale, ont bénéficié chacune d'une autonomie de gestion. Malheureusement, chaque période d'hivernage est considérée comme un cauchemar pour les habitants des quartiers périphériques de N'Djamena. André Kodumadingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h sur 24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
En Guinée, l'association des blogueurs a lancé une initiative citoyenne. Une cinquantaine de jeunes web activistes animent des plateformes numériques dédiées au suivi et à l'évaluation des promesses du gouvernement guinéen. Après les enquêtes, les résultats sont rendus publics via une page Facebook et le site internet de l'association. Les blogueurs guinéens travaillent actuellement sur le discours de politique générale du nouveau Premier ministre guinéen. Un rapport sur celui-ci de son prédécesseur est déjà disponible. On fait le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Les sympathisants et défenseurs du président Alpha Condé parlent des réalisations dans les domaines d'électricité, avec des barrages hydroélectriques et les infrastructures, notamment les hôtels. Mais dans les cafés, lieu de rencontre des jeunes sans emploi, le son de cloche est différent. Mamadi et ses amis passent le plus clair de leur temps à discuter autour de petites tasses de thé et parmi les sujets sur les lèvres, il y a la gouvernance politique qui semble donner à ces jeunes chômeurs un sentiment de désillusion.
L'arrivée de Alpha, comme c'est un président qui a fait les rencontres, une fois qu'il va rentrer, même si on ne serait pas comme les Européens, on serait un peu à côté des Européens. Quand tu vois aujourd'hui que nous tous, on veut sortir maintenant dans le pays pour partir, même si nous mourons là-bas, on peut faire ça. C'est parce que rien ne marche dans le pays, c'est le chômage.
Le chômage, plus élevé chez les jeunes, avec environ 60%, reste l'une des priorités pour le gouvernement guinéen. Un gouvernement dont les intentions sont scrutées, des actions passées au crible par des jeunes blogueurs, des activistes qui sont à leur deuxième projet après l'observation de la présidentielle de 2015. Fode Sanikai Kouyaté, président d'Ablogi, association des blogueurs de Guinée.
Nous avons fait le constat de voir le contenu des projets de société et tout ça. Donc nous sommes engagés à ne pas se limiter simplement au processus électoral parce que ce n'est qu'une étape. Une fois qu'on aura donné le pouvoir à un candidat qui va être élu, il aura la possibilité de tout le grand pouvoir de décider à notre place pendant 5 ans. Donc nous avons estimé que s'il est élu, nous allons faire le suivi de son projet de société pour savoir quels sont les engagements qu'il a tenus vis-à-vis des populations.
Fodessa Nikaï et ses collègues web activistes ont produit 3 rapports sur les promesses faites par le président Condé et son gouvernement. Ces informations sont disponibles sur l'AIDI, promesses en langue locale, nom donné au site internet et à la page Facebook. 2 plateformes pour un projet piloté par Mamadou Alpha Diallo.
Notre objectif, ce n'est pas de dire seulement qu'une promesse est faite ou qu'elle n'est pas faite. C'est ce qui rend même le travail un tout petit peu plus compliqué. C'est pas ça. L'objectif, c'est de donner des informations. Si c'est fait, comment c'est fait? Dans quel cadre? Qui l'a fait? Comment c'est fait? Si ce n'est pas fait, pourquoi c'est pas fait?
Le dernier rapport est le résultat du suivi et évaluation du discours de politique générale de l'ex-premier ministre et les actions de son gouvernement, Mamadou Alpha Diallo.
Nous avons donc sur un échantillon de 78 promesses que nous avons faites, nous avons constaté que le premier ministre Mamadou a donc, pendant le temps qu'il a été là, seulement 21% des promesses du président de la République ont été réalisées. Et quand nous partons plus loin, nous nous rendons compte que pour 40% de ces promesses, aucune action concrète n'a été posée.
Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Et c'est la fin de cette édition, mise en onde par Georges Léonard Sagno, console Regis Audrius, présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com. Au revoir.
VOA Afrique, les infos.